Sylvain de Guessant, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette modification de la Constitution que vient d'annoncer le président Ouattara?
Nous sommes à 10 mois de la future élection. La presse fait écho de ce que cette modification pourrait concerner les conditions d'éligibilité, notamment les questions d'âge. Mais tout porte à croire que la condition pourrait porter sur d'autres compartiments de la Constitution, notamment la structuration de l'armée, de l'administration publique, la promotion, la protection des droits de l'homme, les relations avec les sous-régions et donc les relations économiques internationales. Attendons peut-être de voir les points qui seront à l'ordre du jour avant de nous prononcer davantage.
Oui, apparemment, il n'y aura pas de limite d'âge, puisque Alassane Ouattara lui-même vient de déclarer, tout le monde pourrait être candidat. Je ne compte exclure personne, y compris moi-même.
Bien évidemment, à partir du moment où le président lui-même déclare effectivement qu'il ne compte exclure personne, cela voudrait dire que la modification constitutionnelle pourrait porter sur d'autres articles de notre Constitution.
Alors, il y a un débat sur la question de savoir si Alassane Ouattara a le droit ou non de se présenter à un troisième mandat en octobre prochain. Est-ce que cette question pourrait être l'objet justement d'une modification à venir de la Constitution?
C'est possible, dans la mesure où le président de la République entretient le flou sur son éventuelle candidature depuis un certain temps. C'est fort possible que cette nouvelle modification porte sur éventuellement une nouvelle candidature de M. Alassane Ouattara.
L'opposition, et notamment Henri Conen-Bédier, dénonce une commission électorale indépendante très déséquilibrée. Est-ce que la rencontre gouvernement-opposition de ce mois de janvier sur le code électoral pourrait faire bouger les choses?
Il faudra l'espérer, dans la mesure où l'opposition en fait vraiment une revendication. L'opposition ne cesse de clamer depuis la mise en place de cette commission électorale qu'elle est déséquilibrée, elle serait à l'avantage du parti présidentiel, etc. Donc, si le président de la République, à mon avis, peut essayer de réformer davantage, donc d'équilibrer davantage la composition de la CEI en vue d'apaiser le climat social, en vue de rassurer l'opposition, ou que nous ayons une élection qui ne soit pas contestée de part et d'autre, si les hommes politiques peuvent s'entendre sur une CEI plus consensuelle, ce serait pour le bonheur du peuple ivoirien.
Le mois prochain, on devrait en savoir plus sur le sort judiciaire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Si leur acquittement est confirmé, que va-t-il arriver?
On imagine aisément que M. Laurent Gbagbo ne tardera pas à rentrer en Côte d'Ivoire. M. Blé Goudé également. Mais bon, en leur absence, il y a eu des procès ici où ils ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Est-ce que le président de la République va user du droit constitutionnel pour une amnistie de sorte à ce qu'il puisse avoir accès aux jeux politiques? Ou est-ce que, à leur arrivée, le pouvoir brandissant la condamnation qu'il a atteint ici va les priver encore de leurs droits civils et politiques? On espère que le président de la République va essayer de résoudre cette question de manière pacifique, parce que, comme vous le savez, le climat social devient de plus en plus tendu. La rue pourrait reprendre le service pour l'élection à venir en octobre 2020.
Alors, début novembre, la justice ivoirienne a condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison par contumace. Et puis, fin décembre, la même justice ivoirienne a condamné Charles Blé Goudé également à 20 ans de prison par contumace. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ces deux décisions de justice?
Quand on voit l'agenda, la période à laquelle ils ont été jugés, il faut dire que le pouvoir avait quand même tout le temps depuis avril 2011 jusqu'à 2018, avant leur acquittement. Donc, ils avaient toute l'occasion de faire un procès, donc de leur faire connaître leur sentence. À partir du moment où ce procès a lieu après leur acquittement, au moment où il est de plus en plus question de leur retour en Côte d'Ivoire et donc de leur participation au jeu électoral de octobre 2020, on pourrait évidemment se poser des questions. Est-ce que ces procès ne sont pas en relation avec les dossiers de candidature en vue de la présidentielle d'octobre 2020? Ce sont des questions qu'on peut se poser légitimement.
Et quel pourrait être l'objectif du pouvoir dans ce sens?
Bon, on imagine clairement que c'est une manière certainement de se donner plus de chances en vue de la présidentielle de 2020, quand on sait que M. Laurent Gbagbo a gardé quand même une importante base électorale en Côte d'Ivoire malgré son absence du jeu politique. On sait que M. Blé Goudé également a pu enflammer les foules durant une dizaine d'années. Il y a plusieurs sections de son mouvement politique qui existent encore qui se reconnaissent de lui. Et à mon avis, les appels au boycott des élections du FPI ont plus ou moins payé. Donc, c'est une manière sans doute de les écarter du jeu politique de 2020 en vue d'augmenter leurs chances pour remporter la présidentielle de d'octobre 2020. Le RHDP, naturellement, essaie de se donner des chances en vue de remporter l'élection présidentielle à venir pour préserver ses acquis.
Dans l'opposition, Henri Conen-Bédier dénonce une justice instrumentalisée. Est-ce que la justice est indépendante en Côte d'Ivoire ou pas?
Je ne pense pas que la justice soit indépendante. Quand on voit la crise post-électorale et ses conséquences, jusque-là, il n'y a que des cadres, des militants, des sympathisants du camp de M. Laurent Gbagbo qui ont été jugés. Dans le camp adverse, personne n'a encore été jugé.
Et quand Henri Konan Bédié était au pouvoir, est-ce que cette justice était indépendante ou pas?
Ah, on se rappelle quand même que M. Henri Konan Bédié avait fait emprisonner toute la haute direction du RDR. L'FCC était constamment en prison. Le FPI lui-même avait toutes les difficultés. Non, non, la justice, pratiquement, à mon avis, depuis 90, depuis l'heure du multipartisme, a toujours été en faveur du régime présidentiel.
Autre opposant face à de graves ennuis judiciaires, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, contre qui un mandat d'arrêt international a été lancé. Est-ce qu'il a une chance de pouvoir revenir en Côte d'Ivoire cette année?
Pour M. Guillaume Soro, je ne pense pas. Je pense que les juges sont faits. Parce que la première décision qui pourrait sortir de ce procès ne serait pas à l'avantage de M. Guillaume Soro. Et le temps qu'il fasse appel, qu'il y ait un autre procès, même s'il est blanchi, on aura déjà fini les élections de octobre 2020, à mon avis, pour M. Guillaume Soro. À moins que M. Alassane Ouattara prenne une décision politique, à mon avis, M. Guillaume Soro devra certainement attendre 2025. Pour 2020, je pense que c'est fini.
La rencontre Gbagbo-Affine-Guessant la semaine dernière, est-ce une réconciliation entre le fondateur du FPI et le dissident FPI?
À mon avis, oui. Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Affine-Guessant ont dû comprendre que ce serait suicidaire pour le FPI d'aller à l'élection présidentielle 2020 en des rangs dispersés. Deux candidats au FPI, ce serait suicidaire. Donc, on imagine que la rencontre du week-end passé visait certainement à arrondir certains angles, à se réconcilier, à faire taire certaines querelles. On imagine que c'est une manière pour Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Affine-Guessant de mettre de l'eau dans leur vin, en vue certainement d'avoir un ticket commun pour la présidentielle 2020. Vous savez, la décomposition du champ politique ivoirien depuis ce mois de décembre pourrait amener le FPI à jouer un rôle clé, à mon avis, lors de la présidentielle venue. Pas forcément pour remporter, mais pour être un faiseur de roi. Et donc revenir assez fort dans le jeu politique à partir de 2021.
Voulez-vous dire que la rencontre Bédié-Bagbo du mois de juillet dernier à Bruxelles augure d'une alliance entre le PDCI et le FPI face au RHDP d'Alassane Ouattara?
Oui, on est habitué un peu à ce jeu depuis 1990, le fameux triangle, quand un essaie de pouvoir, les deux autres s'allient. Mais il n'irait pas jusqu'à un ticket commun. Si éventuellement il y a un second tour, celui qui serait deuxième pourrait bénéficier des voix des autres candidats. Je n'imagine pas une candidature unique, PDCI-FPI pour le moment. Je n'imagine pas.
Mais vous imaginez un accord de désistement entre les deux tours?
Entre les deux tours, effectivement.
Et Alassane Ouattara sera-t-il candidat lui-même, à votre avis?
Je pense que oui. Dans la mesure où la presse laisse entendre que les sondages qu'il aurait demandé ne donnent pas vainqueur le dauphin qu'il essaie de présenter, M. Amadou Gon.
Les sondages ne sont pas très favorables à l'éventuel candidat Amadou Gon Coulibaly, l'actuel Premier ministre.
C'est ce qu'on a lu dans la presse, en tout cas.
Et pourrait-on retrouver le trio de 2010, Messieurs Ouattara, Bédié et Gbagbo?
Bon, pour M. Ouattara et M. Bédié, je crois que ce serait possible. M. Gbagbo, à partir du moment où il y a une lourde peine d'emprisonnement qui l'attend en Côte d'Ivoire, on se demande comment il pourrait desserrer l'étau autour de sa candidature. Est-ce que le président de la République va faire violence sur lui-même pour une amnistie totale en vue qu'il soit candidat? On appréciera, mais je ne pense pas.
Ce sera donc peut-être un autre candidat pour le FPI. Hein.
Probablement, probablement.
Et pensez-vous à Simone Gbagbo?
Bon, le nom qui pourrait défendre effectivement le FPI d'un tel schéma, si la réconciliation est actée, il y a bien évidemment M. Affine-Guessant lui-même, il y a Mme Simone Gbagbo, il y a des cadres comme M. Dakoury Tablé, l'ancien gouverneur, il y a M. Awa Dombello, voici des noms qui reviennent un peu plus pour le FPI en vue de la présidentielle à venir.
Sylvain Guessant, merci.